Radio Kapi.
Les informations, Belinda Bosuma. Les Congolais n'ont toujours pas de carte d'identité. Ce, environ une année après que le chef de l'État et quelques officiels ont obtenu les leurs à l'Office national de l'identification de la population ONIP. Cette situation suscite des interrogations au sein de la population. Reportage à suivre dans un instant. Désormais, tous les terminaux de paiement électronique utilisés dans les commerces doivent être paramétrés en francs congolais, ce dès le 31 juillet prochain. Décision de la Banque centrale du Congo dans le cadre d'un programme global de dédollarisation de l'économie congolaise. Et puis, l'invité de ce matin, Dr Raphaël Amissi, directeur du Centre pour personnes vivant avec handicap de Kindu. Il s'exprime sur la journée du 3 juin consacrée à la malformation des pieds appelée Piebo. À tous et à toutes, bonjour. Où en est-on avec la délivrance de la carte d'identité en République démocratique du Congo? En tout cas, à presque une année, donc au 30 juin 2024, depuis l'obtention par le chef de l'État de sa carte d'identité à l'Office national d'identification de la population ONIP, la délivrance aux autres citoyens congolais bat encore de l'aile. Seuls quelques officiels et très peu de Congolais se sont vus octroyer la carte pour citoyen. Depuis bientôt 2 mois, aucune opération d'identification, de recensement ou de délivrance n'est visible dans les sites annoncés pour l'octroi de cette pièce, notamment les bureaux de communes et le siège du ministère de l'Intérieur, une situation qui suscite des interrogations au sein de la population. C'est un reportage signé Billy Van Lutumba.
Je vais présenter quand j'ai l'électeur. Bah, comme au goût, les mounes en a gâté, photo goût, les mounes en a gâté.
Ce chauffeur mécanicien congolais rencontré sur la rue s'interroge même sur l'existence et l'octroi de la carte d'identité. En cas de nécessité, dit-il, il exhibe son permis de conduire qui aussi est déjà expiré malheureusement. Pourtant, nous avions très bien accueilli la décision de l'octroi de la carte d'identité, soupire cet ingénieur.
L'annonce sur l'octroi des cartes d'identité était salutaire pour nous et ça nous a donné un signal fort. Mais malheureusement, ça ne s'est arrêté qu'au premier citoyen de la République. Et là, nous, on s'est dit que c'était une arnaque ou quoi? Bon, en tout cas, c'est vraiment désolant.
Comme alternative pour témoigner sa citoyenneté en ce moment pour un citoyen lambda sans passeport, il faut la carte d'électeur.
Les cartes d'électeur ne sont pas de bonne qualité. J'ai réussi à 2 reprises les duplicata, mais ça s'efface.
Cette infirmière en instance imminente d'immigration en Occident déplore le mythisme de l'ONIP car elle se voyait brandir sa nationalité congolaise une fois hors de la RDC.
Les services qui doivent nous livrer ces cartes ne disent rien, ils sont calmes. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura ces cartes, donc nous sommes un peu inquiets.
L'Office national d'identification de la population que Radio Okapi a contacté promet depuis maintenant 2 semaines de nous donner plus d'éclairage sur la délivrance de la carte d'identité.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, désormais, tous les terminaux de paiement électronique TPE utilisés dans les commerces devront être paramétrés en francs congolais et ce, à dater du 31 juillet. C'est une décision de la Banque centrale du Congo, BCC, contenue dans une lettre adressée aux responsables des établissements de crédit et sociétés financières. Cela rentre dans un programme global de dédollarisation de l'économie congolaise en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais, mesures issues d'une réunion ordinaire du Conseil et des ministres du gouvernement de juillet 2023. Explication Cynthia Bachizi Nabizana.
Nous sommes dans un commerce de la place. Ici, aucun terminal de paiement électronique TPE en francs congolais. Et selon la Banque centrale, seulement 13% de ces terminaux en service sur l'ensemble de la RDC sont configurés pour accepter la monnaie nationale, ce qui est de nature à renforcer l'usage des devises étrangères. L'autorité monétaire veut ainsi inciter la population à utiliser davantage les francs congolais dans les commerces lors des paiements avec les TPE. Pour l'heure, l'Association congolaise des banquiers regroupe toutes les banques commerciales en RDC, n'a pas encore réagi. Des sources au sein de certaines entreprises nous apprenons que le management intime déjà l'ordre pour que toutes les dispositions soient prises afin de paramétrer au plus vite ces terminaux de paiement électronique en monnaie nationale. Selon l'esprit de la lettre de la Banque centrale, cette décision ne concerne pas les distributeurs des billets appelés communément DAB ou ATM et la Banque centrale central tient également à préciser que cette mesure n'exclut nullement la détention et l'utilisation des cartes de paiement en devises étrangères.
Rendons-nous en Ituri. Plus de 80 pêcheurs de Chomia, arrêtés le week-end dernier par les forces navales ougandaises et détenus dans la prison de Senjojo en Ouganda, sont relâchés depuis mardi. Cependant, une dizaine d'autres sont toujours en détention avec leurs embarcations, des poissons et du matériel de pêche saisis par les services de sécurité. Ces derniers les accusent de violer les limites des eaux lacustres, déclare l'association des pêcheurs à Chomia. Cette structure sollicite l'implication du gouvernement provincial pour la remise de leur bien. Ézéchiel Mouzalia.
Ces pêcheurs congolais spécialisés dans la pêche d'une espèce de poisson communément appelé ngassia ont quitté Chomia pour pêcher sur le lac Albert. Munis de leurs outils de pêche, ils se sont dirigés vers l'extrême sud-est du lac où ils ont été aperçus par les militaires de la force navale ougandaise. Ces derniers les ont arrêtés pour n'avoir pas présenté la licence de pêche qui leur donne le droit d'exercer la pêche sur le lac Albert. Et pourtant, ce document n'est pas octroyé par les autorités congolaises des régulations des pêches sur les lacs. Ces pêcheurs et les embarcations ont été acheminées à Senjojo, en Ouganda. Ces militaires ont exigé ces pêcheurs congolais de payer un montant de $150 américains pour violation des limites des eaux lacustres et l'usage des filets prohibés. La Fédération des pêcheurs congolais sur le lac Fekopela indique qu'une dizaine d'autres pêcheurs sont toujours en détention et 3 pirogues gardées par les services de sécurité de l'Ouganda. L'ONG Coalition Associative Résolue pour la Défense des Droits de l'Homme demande aux autorités de ces deux pays d'harmoniser ce problème des limites qui cause des préjudices et d'énormes pertes aux pêcheurs congolais. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Célébration le 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Combattre la pollution plastique » dans la ville de Beni. Le chef de bureau en charge de la conservation de la nature au Nord Kivu a saisi cette occasion pour sensibiliser la population à une gestion responsable des déchets dégradables et biodégradables. C'était à l'esplanade de la mairie de Beni. Alphonse Migueri a insisté auprès de la population de séparer ces deux types de déchets car selon lui, l'un est utile pour l'environnement mais l'autre nécessite un recyclage pour être utile à l'homme. Alphonse Migueri est au micro de Marc Marofimbo.
Les déchets plastiques, c'est une menace environnementale au niveau non seulement des Beni, au niveau provincial comme au niveau du monde. Parmi les déchets solides, il y a deux qualités, les déchets biodégradables et les déchets non biodégradables. Les déchets non biodégradables, les matières plastiques, ce n'est pas décomposable. Donc ce n'est pas utile au sol, ce n'est pas utile dans la nature. Il faut d'autres mécanismes de recyclage pour que ça soit utile. Chaque ménage, toute la population vit. Et là où il y a une vie, il y a aussi la production des déchets. Donc la première des choses, c'est séparer la séparation quand on produit les déchets. Vous séparez les déchets biodégradables des déchets plastiques. Je vois aussi des organisations de récolte des déchets à travers la ville de Beni. Donc, quand ils viennent pour ramasser ces déchets, ils sauront déjà que ce sont des non biodégradables et ce sont des déchets biodégradables. Parce qu'à travers Beni, il y a encore des gens qui investissent dans l'agriculture, qui ont des jardins de cases au bord des ménages. Donc, ce compost est encore utile au sein des familles, au sein des jardins, des champs même.
Signalons que lors de cette activité qui a connu la participation des organisations de l'environnement, le maire de la ville de Beni ainsi que le chef du bureau provincial de conservation de la nature ont distribué plusieurs plantules d'arbres à la population présente à cette cérémonie. Et toujours en rapport avec la journée de l'environnement, la police des Nations Unies, UNPOL, a procédé hier à la plantation d'arbres dans l'enceinte du quartier général de la MONUSCO à Madiba ainsi qu'à sa base à Boïkéné. Pour la MONUSCO, c'est une façon d'inciter la population à planter des arbres pour ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes à présent dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Le fonctionnaire délégué du gouverneur à Mubana accuse les Maïmaï du groupe Front des Patriotes pour la paix armée du peuple de Kabido de commettre des exactions contre les civils. Mubana est une localité située à environ 80 km au sud-est de Butembo. Amini Kambale affirme que ces exactions sont commises en complicité avec des jeunes du milieu. Il sollicite l'implication du gouvernement pour mettre fin à cette situation. Amini Kambale, juin par Grévis Salomon.
Depuis que les militaires qui sont venus de Lubero sont rentrés, la situation est devenue plus dure qu'avant. Ces éléments du FPP sont devenus des maîtres absolus partout où ils sont. Et certains jeunes garçons qui sont des distributeurs de leurs jetons et aussi bénéficient de cet argent illicite au détriment de la population. À l'heure où je vous parle, il y a deux personnes de Moubana qui sont arrêtées arbitrairement. Ils sont dans le cadre de ces éléments. Il y a encore des barrières qui sont déjà implantées par-ci par-là et les gens sont obligés de payer. Cette pratique que ces gens sont en train de faire, ça reste une bombe à retardement même contre notre gouvernement. C'est vraiment un arbre qui cache la forêt. Nous demandons au gouvernement de pouvoir restaurer l'autorité de l'État dans toutes ces agglomérations où la population a besoin de vivre à paix avec les FARDC qui est notre armée.
Contactez le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, signale que le processus de redéploiement des militaires dans la zone est en cours. En Ituri, l'insécurité qui prévaut depuis près de 2 semaines dans le secteur de Banyalikilo affecte les activités socio-économiques dans plusieurs villages de cette entité. Au centre commercial de Kiloita, les activités commerciales tournent au ralenti. Certains habitants n'y vont plus dans leurs champs à cause de la présence des hommes armés. L'exploitation artisanale de l'or est également perturbée dans cette entité minière, précise le responsable de la société civile locale. Le point avec Jean-Claude Loki.
En l'espace de 2 semaines, le centre des négoces de Kiloita a subi 5 attaques des miliciens de la Codeco. La dernière remonte au mercredi matin où un groupe d'assaillants tente de pénétrer dans ce centre commercial. Ils ont été repoussés par les militaires des FADC à prendre des sources sur place. Certains habitants campent en brousse depuis plusieurs jours pour se mettre à l'abri. D'autres restent aux aguets et sont prêts à prendre le large. Une situation qui devient stressante, s'indigne le président de la société civile de Banyalikilo. Selon Jean-Robert Basiloko, la vie devient intenable.
Pour vivre là, bon, comme les gens on fuit en brousse, mais tant bien que mal, les gens se débrouillent dans des champs d'autrui. Alors on trouve qu'il y a des bananes dans les champs d'autrui, on est obligé de couper, on trouve des manioc, on trouve des patates, des colcas, on est obligé de s'en servir, mais d'autres ont laissé leur champ parce que quelqu'un ne peut pas supporter mourir affamé ou passer toute la journée affamé pendant qu'il voit les manioc d'autrui, il voit les patates, les colcas, des bananes, des gens du sombé. Les jeunes gens n'ont pas d'occasion pour aller chercher de l'or. C'est ce que maintenant aujourd'hui, ça fait 5 jours que moi-même je suis de craindre que le pire encore puisse se créer, toujours à cause de la famine.
Il ajoute que 4 enfants atteints d'anémie sont internés actuellement dans la structure médicale de la place qui ne dispose pas de poches de sang. Difficile aussi de trouver des donneurs bénévoles car la plupart d'habitants sont en fuite. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Direction la province de la Tchopo. Les habitants de la ville de Kisangani commémorent le 5 juin, depuis 24 ans maintenant, l'anniversaire de la guerre dite de 6 jours. Guerre qui avait opposé du 5 au 10 juin l'an 2000 les armées ougandaises et rwandaises sur le sol congolais au cœur de la ville de Kisangani. En marge de ce triste anniversaire, le FRIVAO entendait fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda annonce le début des opérations d'indemnisation avant la fin de ce mois de juin. Les rapporteurs de cet établissement public l'ont révélé hier au cours d'un point de presse. Ils ont fait savoir que ceci est une des résolutions du conseil d'administration de FRIVAO tenue dernièrement à Kinshasa. Selon eux, le nombre précis de la première vague sera connu d'ici peu. On écoute à ce sujet Deba Lolia dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
Cette première vague, un nombre important, auront l'argent ce mois-ci, le mois de juin. Les autres résolutions, parce que le conseil d'administration a élié pour demander à la coordination la liste des victimes éligibles. Dans cette liste, il y a des gens qui sont convoqués pour consultation médicale, d'autres pour complément d'information, mais il y a quand même un nombre aussi qui sont déjà éligibles et ces nombres-là auront l'argent avant la fin de ce mois. Entre-temps, la coordination continue de pourparler avec les conseils d'administration. La première vague aura un montant forfaitaire, mais par catégorie. On donnera l'argent forfaitairement, mais par catégorie. La Cour avait retenu 3 catégories. Il y a la catégorie A, les gens qui ont perdu des gens. La catégorie B, c'est les gens atteints dans leur physique par les balles ou les éclats de bombes et tout ça. Et la catégorie C, c'est les gens qui ont perdu des maisons et des biens.
La lutte contre le VIH-Sida à Kinshasa connaît beaucoup de difficultés suite au manque de financement. Propos du secrétaire exécutif provincial du Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida PNMLS, Dr Patrick Kanga, l'a dit hier à Kinshasa lors de la réunion de coordination multisectorielle de cette structure. Pour lui, la capitale congolaise compte beaucoup de porteurs de VIH, mais les statistiques disponibles datent de 2013. Il appelle à une actualisation. Dr Patrick Kanga est au micro de Miradi Mfuengi.
Je crois que vous avez entendu dans la salle les problèmes des données posent problème. Étant donné que les problèmes des données posent problème, la lutte, il y a des gens qui se comportent de leur façon, des structures, et on a des problèmes de données, ce qui fait que la statistique est pratiquement compliqué, mais nous devons actualiser. Nous avons l'ancienne prévalence pour la ville province de Kinshasa est à 1,6%, qui est nettement supérieure par rapport au pays qui est à 1,2%. Mais cette prévalence remonte depuis l'EDES, l'enquête démographique santé de 2013. Cette enquête a été réalisée en 2013. Mais ce que nous voyons sur terrain, les données changent. La flèche est en train de monter au-delà de ce qui a été fait. Du fait que l'engagement politique est là, mais la disposition des moyens financiers pour mener la lutte ne sont plus pratiquement au rendez-vous.
Actualité internationale.
Une étude de l'ONG Global Witness jette une nouvelle ombre sur la promesse du ministre émirati de l'industrie, président de la COP28 de Dubaï et patron d'ADNOC, la compagnie pétrolière émiratie. Il s'était engagé à ne pas utiliser le rendez-vous climat comme tremplin pour ses affaires. Mais selon l'ONG britannique, les marchés signés par ADNOC au cours de l'année 2023 ont été nombreux.
L'invité.
Il s'agit de Dr Raphaël Amissi, directeur du Centre pour personnes vivant avec handicap de Kindu et médecin coordonnateur provincial du programme de la réadaptation des personnes vivant avec handicap dans le Maniema. Il s'exprime sur la journée du 3 juin consacrée au pied beau. Dr Amissi est avec Florence Kiza.
Dr Raphaël Amissi, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Vous célébrez la journée des pieds beaux. Quelles sont les statistiques au Maniema? Avez-vous atteint vos objectifs?
Selon nos statistiques, chaque année, dans la province du Maniema, nous devrions prendre en charge 600 enfants qui naissent avec pieds beaux. Mais actuellement, donc l'année 2023, nous n'avons pris en charge que 103 enfants. Donc, il y a 500 enfants qui restent sans prise en charge.
Pourquoi?
Il y a d'abord les problèmes liés à l'accessibilité. Dans toute la province du Maniema, il ne compte qu'une seule clinique pieds beaux, qui est basé à Kindu au Centre pour handicapés AMCA. Or, dans une bonne politique d'intégration des soins de réadaptation à base communautaire dans les soins de santé primaire, on devrait au moins avoir une clinique dans chaque zone de santé. Donc, dans la province du Maniema, on devrait avoir 18 cliniques pieds beaux. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'existe qu'une seule clinique. Et il y a aussi le déficit du prestataire. Dans la province du Maniema, nous n'avons que deux orthopédic offices. Donc, Ilafrica Goma a mis une faculté qui forme les officiers en orthopédie. Ces derniers sont chargés de prendre en charge les pathologies ostéo-articulaires et les pathologies orthopédiques. Donc, dans notre province, ces domaines n'existent pas encore à l'ISTEM, ni encore moins à l'université de Kindu, d'où il faut envoyer les enfants là-bas pour la formation. Ça coûte cher. Nous n'avons pas non plus de kinésithérapeutes, mais dans l'ensemble de la province du Maniema, il n'y a aucune formation, aucune faculté, aucun établissement qui organise la formation des kinésithérapeutes. D'où nous n'avons que 2 à 3 kinésithérapeutes formés à Goma qui sont en train de desservir toute la province, et c'est ce qui fait que nous sommes dans les bas de l'échelle.
Docteur, qu'est-ce que vous maintenant, à votre niveau, vous faites, étant donné que vous envisagez soigner 600 enfants par an, mais vous êtes qu'en 100. Qu'est-ce que vous préconisez pour résoudre les problèmes?
Nous préconisons l'intégration. Nous sommes sommes en train d'inviter le gouvernement tous les jours pour que le gouvernement puisse prendre en compte cet aspect de l'intégration effective de la réadaptation à base communautaire dans les soins de santé primaire. S'il y a intégration, c'est-à-dire les prestataires locaux seront formés partout où il y a des zones de santé, il y a des centres de santé, il y a des IT, tous ces gens-là doivent être formés dans le cadre de la réadaptation. Et ce qui va faire en sorte que les problèmes liés au handicap, surtout les handicaps liés au pied beau, sera totalement éradiqué si nous avons des prestataires. Nous invitons aussi les partenaires techniques et financiers pour nous tenir main forte, pour nous aider afin que nous puissions étendre nos activités dans l'ensemble de la province. À présent, nous avons seulement Île-Africa qui essaie d'aider seulement la clinique de Kindu à travers HopWorks. Donc, pour toute la province, il faut que d'autres partenaires puissent nous aider afin que l'intégration aux soins de santé primaire du programme de réadaptation soit effective.
Pour ceux-là qui sont dans les territoires, vous n'avez pas la politique des cliniques mobiles?
Nous avons cette politique des cliniques mobiles, mais cette technique aussi demande suffisamment de moyens et de logistiques importants. Donc, comme cette année, dans notre plan d'action, nous avons envisagé faire 5 cliniques mobiles, mais jusque-là, nous n'avons pas encore réalisé des cliniques mobiles faute de moyens. Ces cliniques nous permettent à rassembler les enfants de 2 à 3 zones de santé, non seulement avec problème de pieds beaux, mais qui présentent d'autres pathologies ostéo-articulaires afin qu'ils soient rééduqués et même à travers les interventions chirurgicales.
Docteur, par rapport aux bénéficiaires, nous savons que pour les enfants de moins de 10 ans, la prise en charge est gratuite et pour les personnes adultes, la prise en charge est payante. Entre ces deux catégories, qui fréquentent beaucoup les centres?
Alors, les enfants avec pieds beaux fréquentent beaucoup les centres. Les adultes avec pieds beaux, ils sont rares. Toute l'année 2023, nous n'avons fait que 3 arthrodèses parce que pour eux, le traitement est chirurgical. 2, le traitement est coûté parce qu'il faut avoir au minimum $200 pour être opéré.
Docteur Raphaël Amissi, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.